juste continuer notre série de prédications sur marcher sur le chemin divin. On a regardé ensemble dans les semaines passées que des fois, lorsque on est sur un chemin qu'on semble ne pas nécessairement contrôler, que l'on ne semble pas être en charge de tout ce qui prend place à l'intérieur de nos vies, on doit comprendre et réaliser que Dieu, alléluia, est celui qui est au contrôle de toutes choses. Et quelquefois, ce chemin, c'est le chemin divin sur lequel Dieu nous amène à marcher et à comprendre combien il est celui qui marche et qui est là pour chacun d'entre nous. Non seulement cela, on a vu la semaine dernière combien il est celui, alléluia, dans les moments à l'intérieur de nos vies que Dieu, le chemin divin, c'est lequel sur lequel Dieu nous demande de marcher. Et que Dieu nous appelle sur cette terre de ne pas être des fuyards, des gens qui vont fuir, de ne pas faire ce que Jonas a fait, bien que je crois Jonas aimait Dieu de tout son cœur, mais dans une période, un moment de sa vie, il a voulu fuir ce à quoi le Seigneur l'appelle. Et on a vu la différence entre, bien sûr, cet homme Abraham et cet homme Jonas qui se sont retrouvés tous deux dans des particularités dans lesquelles Dieu les a appelés. Aller, de marcher sur un chemin qui est propice pour leur propre vie, pour la suite des choses à l'intérieur de leur vie. Et combien l'un est celui qui est devenu à fuir ce que Dieu lui demandait pour toutes sortes de raisons, pour toutes sortes de situations pour lesquelles il a fui. Mais combien l'un s'est levé, il est allé, il est entré, il a marché dans ce que Dieu, alléluia, l'appelait à faire. Bien sûr, dans la grâce et la bénédiction de Dieu, cela a fait que le Seigneur est celui qui a amené Jonas à aller dans la direction de ce que Dieu avait pour lui, de ce que le Seigneur avait pour lui. Et cela, c'est tellement important de comprendre et de réaliser que des fois, le vent de Dieu, alléluia, nous amène et nous conduit. J'ai mentionné aussi de deux choses, deux manières, de deux choses qu'on peut, ou de à travers le vent, comment on peut reconnaître si c'est un vent de Dieu que Dieu permet. Et dans la situation de Jonas, c'était un vent, une tempête qui a pris place. Et ce vent et cette tempête étaient vraiment dans une dimension d'amener Jonas à marcher sur le chemin divin. Ce matin, je veux partager avec vous sur, encore une fois, le marcher sur le chemin divin, mais que ce chemin-là est un chemin de disciples. Le chemin divin, alléluia, c'est le chemin du disciple sur lequel Dieu nous demande de marcher. C'est pas seulement un chemin sur lequel on marche et qu'on vit une vie d'une certaine façon, mais je pense que Dieu nous appelle, chacun d'entre nous, s'il y a quelque chose qui est général à l'intérieur de la parole de Dieu, alléluia, c'est que Dieu veut faire de chacun d'entre nous des disciples. Et pour devenir des disciples, il faut marcher sur le chemin sur lequel Dieu nous appelle à marcher comme des disciples. Lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, je pense qu'autant dans l'Ancien Testament que le Nouveau Testament, Dieu a appelé des hommes à devenir et à marcher sur ce chemin de disciples. Et chacun d'entre nous, nous sommes appelés à marcher sur ce chemin. Chacun d'entre nous, alléluia, et le chemin de disciple est un chemin qui est divin. C'est pas toujours un chemin facile, mais c'est un chemin d'apprentissage, c'est un chemin de changement, de croissance. Alléluia, c'est un chemin de transformation. Et à travers ça, alléluia, Jésus a appelé ses disciples à marcher sur ce chemin. On peut découvrir aussi dans la parole des hommes, comme David, que Dieu a appelé à marcher sur ce chemin pour devenir un disciple. Je vais vous dire ceci, avant de devenir ce que ces hommes et ces femmes sont devenus dans leur accomplissement, je pense qu'ils ont été d'abord et avant tout des disciples. Si nous accomplissons l'œuvre de Dieu sans être des disciples, il y a un grave problème. Je pense que chacun d'entre nous, peu importe ce que l'on fait, peu importe ce qu'on accomplit, peu importe dans la dimension de ce que nous faisons, alléluia, Dieu d'abord et avant tout nous appelle à être et à marcher sur le chemin des disciples. Je pense les pères ce matin, alléluia, on est bénis à travers les jeudis sur avec cette étude courageuse, les hommes qui sont là de pouvoir partager ensemble, recevoir les uns les autres et être bénis les uns avec les autres. Mais à travers cela, alléluia, je pense que Dieu veut faire des pères de cette église. D'abord et avant tout, avant d'être un père, Dieu veut faire de vous des disciples qui vont accomplir un rôle de père. Avant de faire de nous des hommes, des femmes qui vont diriger la louange, d'être des hommes, des femmes qui vont jouer un instrument. Dieu veut faire de nous des disciples. Et à travers, alléluia, de marcher sur ce chemin-là, ça nous donnera d'accomplir et d'être capable de faire ce que Dieu nous demande de faire. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 18, alléluia, Jésus est celui qui va parler aux apôtres, à certains qui sont là. Il va les amener et les appeler à devenir des disciples. Ça dit, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui était dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparait leurs filets. Il leur parla, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Dans ce texte-là, le Seigneur semble amener vraiment une dimension, et bien sûr, j'aurais pu prendre le texte qu'on connaît bien, où l'un des mandats de ces hommes vont devenir de faire eux-mêmes, de faire des chrétiens, des gens qui vont donner leur vie au Seigneur. Dieu va leur demander, va leur donner le mandat à leur tour d'aller, d'enseigner et de faire des disciples. Ce que Jésus a fait avec eux, Jésus va leur demander qu'eux-mêmes puissent continuer de le faire. Ça dit d'aller de par tout le monde et de faire des disciples et de faire de chaque personne des enfants de Dieu, mais aussi, alléluia, des disciples, des gens qui marchent sur le chemin divin, alléluia, de disciples. Dans ce texte-là, le texte nous dit que le regard de Jésus-Christ s'est jeté sur ces deux hommes-là. Il a vu ces hommes, et c'est-à-dire Pierre et André, il a vu aussi Jacques et Jean, qui était là, c'est comme si un regard qui était, et il y a vraiment pour moi quelque chose d'intéressant, parce que plusieurs reprises dans la parole, il va faire référence que Dieu a vu son peuple. Par exemple, dans Exode chapitre 3, Dieu va dire qu'il a vu son peuple, et que non seulement il a vu son peuple, il a vu la souffrance, la douleur, il a entendu leur cri. Il y a vraiment une dimension d'un regard. Et le texte amène, ici dans la pensée du texte, il y a un regard où le regard de Jésus a vu ces hommes. Et alors qu'il a vu ces hommes, alléluia, il y a une dimension dans le cœur et la personne même de Jésus-Christ d'une vision de ce qui pouvait ou devait devenir à l'intérieur de leur vie. Ça dit qu'il les vit, mais dans ce regard-là, il va voir avec un but. Il va voir avec une raison de ce que Dieu va faire et va vouloir accomplir. Et c'est vraiment intéressant parce que je pense que ça est aussi vrai à l'intérieur de notre vie. Je veux vous dire que Dieu ne vous voit pas seulement dans la dimension de vos besoins, de votre douleur, de votre souffrance, de ce que vous vivez, mais Dieu aussi vous voit, alléluia, dans un but de devenir des disciples. Que le regard de Dieu est un regard visionnaire dans ce qu'il veut faire et accomplir à l'intérieur de votre vie et de ce qu'il désire que vous deveniez un disciple. Et pour ça, nous avons besoin de marcher, je vais vous dire, et nous dire ensemble que ces hommes, c'étaient des excellents pêcheurs. Je pense que Pierre et André étaient dans les meilleurs de ce qu'ils pouvaient accomplir dans le travail qu'ils accomplissaient à chaque jour. Lorsqu'on regarde ici, et Jean, et qui était là, et son frère Jacques, qui était là, qui vivait, qui accomplissait même le travail, avec leur père, il y avait la possibilité d'avoir un homme qui était là et qui les enseignait, qui les instruisait dans un travail, dans une façon quotidienne pour devenir et être de bons pêcheurs, pour de personnes qui pouvaient accomplir un travail avec excellence. Je n'ai aucun doute, connaissant de ce que la parole nous révèle de la vie de ces hommes, dont Pierre et certains autres, j'ai pas de doute que Pierre était un excellent pêcheur dans ce qu'il accomplissait, alléluia, dans son travail. Mais lorsque Jésus les a vus, il a vu en eux la possibilité, pas seulement d'accomplir un travail sur la terre pour les nourrir, mais Jésus a vu en eux la possibilité de devenir des excellents pêcheurs d'hommes. la vision et le regard que Jésus a eu de Pierre, c'est pas seulement dans ce qu'il était le meilleur, dans ce qu'il était, mais qu'il pouvait devenir un excellent et un des meilleurs dans ce que l'appel de Dieu, de marcher sur le chemin de devenir, d'être un disciple, aurait fait ou ferait de lui un excellent pêcheur d'hommes. Vous savez, des gens peuvent voir l'excellence de ce que l'on peut faire dans nos accomplissements à notre travail. Peut-être que vous êtes un excellent menuisier, peut-être que vous êtes un excellent professeur, un excellent directeur, alléluia, peut-être que vous êtes un excellent retraité, peut-être que vous êtes un excellent quelqu'un qui accomplit votre travail dans ce que vous faites, vous êtes dans les meilleurs de ce que vous faites. Excellent comptable, excellent pour un mécanicien ou autre, ou de tout ce que l'on peut faire dans votre travail. Peut-être vous êtes reconnu pour un excellent travailleur, ou les gens voient en vous un excellent travailleur. Et les gens dans notre société, les gens dans l'Église peuvent voir ça. Mais est-ce qu'on peut prendre un instant et prendre conscience que Jésus a sur nos vies, que le Père a sur nos vies un regard pour chacun d'entre nous, comme il a eu sur Pierre et André, sur Jacques et sur Jean. Quand il a vu ces hommes, il a vu la possibilité que ces hommes deviennent des excellents disciples, qu'ils embarquent à marcher sur le chemin divin qui était celui de devenir des excellents disciples. Et c'est le même regard que Dieu a eu sur David, a eu sur Joseph. Je pense que le moment où Joseph a eu la vision, Joseph est entré dans et commencé à marcher sur le chemin de devenir un disciple de Dieu. Bien qu'il était un fils de Dieu, bien qu'il était quelqu'un qui était là et qui faisait partie du peuple de Dieu, je pense que le Seigneur l'a amené dans une formation qui était nécessaire pour l'accomplissement à laquelle Dieu était pour l'appeler. Le Seigneur ne voulait pas seulement avoir un excellent aide ou premier ministre en Égypte, mais Dieu voulait avoir un excellent disciple en Égypte. Dieu ne veut pas avoir seulement un excellent menuisier là où tu travailles, mais Dieu va avoir un excellent alléluia, disciple qui travaille comme un menuisier, qui accomplit une action, une œuvre sur cette terre. Et lorsque Jésus a vu les disciples, c'est le regard. Je pense que c'est la même pensée pour Moïse lorsque Dieu s'est adressé à lui et que Dieu va l'amener, alléluia, il va entrer dans une dimension de formation. Ça va être la même chose pour Abraham quand Dieu va demander à Abraham de quitter Charan. Je pense que Dieu est en train d'amener Abraham à marcher sur le chemin de devenir un excellent disciple de Dieu. Je pense que cela était vrai pour Jacob, pour Paul. C'était vrai pour Ruth, c'était vrai pour Esther dans la parole de Dieu. C'était vrai pour des hommes et des femmes dont le Seigneur les a amenés. Et à travers ce que Dieu les a amenés, alléluia, le Seigneur a voulu faire d'eux. Mais ces hommes ont d'abord et avant tout marché sur le chemin divin de devenir et d'être des disciples. Je pense que ce n'est pas l'accomplissement qui fait de nous des disciples, mais plutôt de marcher sur le chemin. Si je me pose la question, quand les disciples sont-ils devenus des disciples? Je vous pose la question ce matin. Quand Pierre est-il devenu un disciple? Quand il a laissé là leurs affaires, puis ils ont suivi Christ. Ils n'ont pas devenu des disciples au moment, alléluia, où Jésus leur a demandé de le suivre. C'est pas ce moment-là que Pierre, ça, c'est une invitation. Et à travers leur vie, que ça soit, alléluia, au jour de la Pentecôte où le Saint-Esprit est descendu, l'accomplissement de faire de Pierre un disciple, quelque chose de nouveau, totalement à l'intérieur de sa vie, de sa personne, va prendre place. Et là, il y a une dimension publique qui va s'installer et qui va prendre place. Mais ces hommes sont devenus des disciples et ces femmes sont devenues des disciples au moment où ils ont choisi, où ils ont décidé de marcher sur ce chemin divin. Jésus va dire à ses disciples, alléluia, de le suivre. Ça dit, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il a vu, alléluia, ces deux hommes, et à ce moment-là, qu'ils jetaient leurs filets, qu'ils faisaient un excellent travail, Il leur a dit au verset 19, « Suivez-moi, soyez de ceux qui maintenant sont prêts à me suivre. » D'abord et avant tout, pour devenir des disciples, nous devons être capables et de vouloir suivre Jésus-Christ. Pour être enseignés, pour être instruits, pour être changés, pour être transformés. En fait, nous sommes disciples de ce que nous poursuivons ou de ce que nous suivons. C'est important de comprendre ceci. Nous sommes les disciples de celui ou ce de quoi nous suivons à l'intérieur de nos vies. Mais Dieu, l'appel de Dieu, c'est de le suivre lui. Et cela, c'est vrai pour chacun et chacune d'entre nous. La Bible va dire dans Luc chapitre 16, le verset 13, c'est pas possible de servir deux maîtres. Et le texte va vraiment dans une dimension où on peut pas être l'esclave, on peut pas être le serviteur de deux maîtres. Soit qu'on va être un disciple de Dieu ou on serait un disciple d'autre chose, mais on peut pas être le disciple de deux maîtres. Et le texte amène vraiment une absolue un contraste absolu dans ce qui va être dit. Il va dire, car où il haïra l'un et aimera l'autre. Il y a vraiment un sens d'absolu. C'est pas, on va pouvoir aimer les deux ou on pourra haïr les deux. C'est, il y a vraiment une dimension d'aimer ou de haïr. Et le texte va même plus loin. Ça dit que vous pouvez servir deux maîtres. À ce moment-là, ça dit, et où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Il y a un attachement à un où on méprisera l'autre. Et l'idée d'être attaché, c'est de tenir pour, être engagé pour. Alors, c'est important de comprendre que quand Jésus a appelé les disciples, il les a pas seulement appelés à le suivre, mais il les a appelés à s'attacher à lui. Qu'il y ait un lien fort. Dans la dimension du texte de Luc, chapitre 16, verset 13, il y a la dimension où il s'attachera ou méprisera. Et le mot attachement, c'est une dimension de se tenir pour, de se tenir pour. Et là, j'ai pas le temps de le faire ce matin, mais de là découlent des textes ou encore des pensées dans des textes qui vont dire, si tu tiens debout, si tu n'as pas honte de moi devant les hommes, si on n'a pas honte de Dieu devant les hommes, il n'y aura pas honte de nous devant le Père. C'est là, c'est la dimension d'attachement. Il y a la dimension du lien. Il y a la dimension de se tenir debout, d'être engagé. Jésus est en train de dire, le Seigneur est en train de nous appeler, chacun d'entre nous, être capable de se tenir debout. J'aimerais vous raconter l'histoire de ces deux dames qui s'appelaient, dont leur prénom était Margaret. L'une d'elles était une femme qui avait un certain âge et l'autre, Margaret, c'était une jeune fille. Et en avril 1685, le comité qui était là, ont siégé et ont condamné une jeune femme et une femme d'un certain âge. Alléluia, a été condamnée à mort parce qu'elle vivait, alléluia, et enseignait les principes de l'Évangile du Seigneur. Et bien sûr, ils pouvaient être exemptés de la mort en renonçant de suivre Dieu, en renonçant, alléluia, de suivre le Seigneur et en élevant et en glorifiant le roi de ce temps-là. Et à ce moment-là, dans la sentence de mort qu'elles ont eue, ils ont été dit, la sentence de mort, c'est qu'à cet endroit-là, dans la ville où elles étaient, il y avait la marée qui prenait place et ils avaient élevé dans un endroit, un genre de petit canal, il y avait élevé deux poteaux. L'un qui était plus bas que l'autre et l'autre qui était un peu plus élevé. Et la condamnation de ces gens était qu'elles étaient attachées à ce poteau et que lorsque la marée montait, elle montait jusqu'au point où la personne qui était attachée au poteau se noyait par la marée. Et ce que les gens de ce temps-là ont décidé, ce que les autorités de ce temps-là ont décidé alors, qu'ils ont décidé de ce qu'ils étaient condamnés à mourir par la noyade. Et cette femme, cette veuve, qui était reconnue comme une femme exemplaire dans son village, dans son environnement, ont été placées là. Et l'autre jeune fille qui avait 18 ans, elle a été placée sur le poteau qui était le plus élevé. Et leur pensée à eux, c'était, on pense que probablement la, à voir lorsque la jeune femme de 18 ans va voir la femme d'un certain âge mourir en étant noyée, probablement en se débattant et en disant certaines choses, elle va accepter, elle va dire « Vive le roi », elle va commencer à glorifier le roi et va renier sa foi. Et à ce moment-là, alors qu'elle était là, ça dit que les bourreaux étaient certains que la jeune fille serait terrifiée en voyant la scène, une scène semblable, de voir cette dame d'un certain âge mourir, noyée alors que la montée des eaux commençait à prendre place. Et que même si à ce moment-là, elle serait prête à renoncer à sa foi, et que elle, lorsque la marée arriverait à elle pour la faire, elle renoncerait. Mais au moment où la dame âgée a été, à cause de la marée, s'est noyée, la jeune femme qui était là et qu'elle a vu ça, cette Margaret qui était là, elle a commencé, elle va dire ceci alors qu'elle va, elle va voir l'autre qui est noyée, tout ça. Elle dit, que vois-je si ce n'est Christ luttant ici, pensez-vous que nous souffrons? Non, c'est Christ en nous. Elle a déclaré ça et les gens, les bourreaux, à voir ce qui prenait place, des hommes d'une grande dureté qui avaient vu à maintes et maintes reprises, qui avaient mis à mort à maintes et maintes reprises d'autres personnes, ont commencé à supplier cette jeune femme de renoncer à sa foi, de déclarer « Vive le roi » et d'élever le roi à ce moment-là. Les gens qui étaient là ont commencé à dire et à supplier Margaret. Et alors que l'autre était en train de mourir, elle avait la possibilité d'avoir les bras qui étaient dégagés, même d'avoir la parole de Dieu et de lire la parole de Dieu à ce moment-là. Et ça dit, alléluia, qu'alors qu'ils leur ont demandé qu'elle glorifie le roi, elle a déclaré à haute voix alors qu'elle est attachée sur ce pieu et que les eaux, la marée était en train de monter pour la noyer elle-même. Ça dit, elle répondit qu'elle était prête à dire que Dieu sauve le roi, s'il veut. Que Dieu sauve, non pas que le roi soit glorifié, mais que Dieu sauve le roi. Elle déclare à haute voix devant toutes les gens qui sont là, « Je prierai pour le salut de tous, de tous les élus, et non pour la damnation de quelqu'un. » Alors le peuple qui la regardait à ce moment-là, ne voyant qu'elle ne céderait pas, et les eaux ont continué à monter. Et à ce moment-là, à un moment donné, lorsqu'elle était à la veille, que l'eau arrive à sa bouche, elle a déclaré à haute voix devant tous ceux qui étaient là, « Seigneur, que le roi vienne à la repentance et qu'il accepte le salut. » Les gens ont commencé encore à dire, « Margaret, refuse, élève le roi, renie ta foi. » Elle a déclaré ceci encore en criant, « Je ne ferai aucun serment souillé. Je suis une disciple de Jésus-Christ. » Et elle fut donc, alléluia, à ce moment-là, attachée, et elle est morte à ce moment-là par les eaux qui ont monté. Et alors qu'elle était là attachée à ce poteau, après avoir déclaré ses paroles, elle a commencé à citer, alléluia, le psaume 25, qui dit, « Ne retiens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni des transgressions. Souviens-toi de moi, selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. » Et elle continua de chanter, de prier. Tout cela, alléluia, sous des gens qui étaient là et qui sont devenus silencieux, et cette marée qui était montante. Cette dame, cette jeune femme, et celui qui est déclaré à la face de tous, de ceux qui étaient là, qu'elle était une disciple de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle cette femme, ces deux Margaret, ont choisi d'aller, alléluia, jusqu'à la mort et être prêtes à mourir parce qu'elles ont marché, parce qu'elles étaient de celles qui marchaient sur le chemin, alléluia, divin de disciples de Jésus-Christ. On a besoin dans nos propres vies de choisir de marcher, de ne pas vouloir servir deux maîtres, mais de suivre celui, alléluia, avec lequel nous voulons être des disciples engagés, des disciples, alléluia, qui ont été appelés pour être avec Jésus-Christ, pour être appelés pour être avec lui. Dans Marc, chapitre 3, le verset 13, ça dit, il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Ça dit, il en établit 12 pour les avoir avec lui. Pour les avoir avec lui. D'abord et avant tout, le Seigneur ne veut pas nous appeler à être des disciples pour accomplir maintes et maintes choses. On a souvent l'impression que d'être des disciples, c'est pour faire et accomplir. Mais Jésus, alléluia, a appelé ses hommes, Pierre, André, Jacques et Jean, et les autres, pour les avoir avec lui. Pour les avoir avec lui. J'aimerais nous dire qu'il n'est pas possible de marcher sur le chemin divin sans apprendre à être et de passer du temps avec le Seigneur. À le suivre, lui, d'avoir des moments d'intimité, de prière, des moments de jeûne, des moments, alléluia, d'intensité, de communion personnelle et intime avec le Seigneur. De prendre du temps pour lire sa parole, de permettre au Saint-Esprit de parler à notre cœur. Non seulement le Seigneur nous appelle et nous a appelés, quelle belle promesse! C'est intéressant parce que dans la parole, Jésus va dire, va les inviter à être et à être avec lui. L'une des raisons, je dis encore, pour lesquelles Jésus a dit à Pierre, « Suis-moi », c'est pas d'abord et avant tout dans un but premier, c'est-à-dire ça va venir dans l'accomplissement de sa vie, ça va faire partie d'être d'un disciple, d'abord et avant tout de les avoir avec lui. Mais lorsque Jésus va être prêt à la mort et qu'il va mourir et qu'il va ressusciter, alléluia, il va dire, il va déclarer d'ailleurs, c'est écrit dans Matthieu 28, le verset 20, ça dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et là, c'est le texte qui dit d'aller de faire des disciples. Et là, Jésus déclare dans ce texte-là, ça dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Souvent, ce texte-là est pris dans un contexte que dans nos situations difficiles, Dieu va être avec nous. Mais j'aimerais nous dire que d'abord et avant tout, ce texte-là est déclaré dans une dimension d'un maître avec son disciple. C'est pas d'abord et avant tout d'un babysitter envers la personne qui garde. Jésus va dire à ses disciples, je vous ai invité parce que comprenez la dimension et la réflexion que le Seigneur va faire tout au long. C'est important que quand Jésus va dire à ses disciples, suivez-moi, et que là, il va mourir, pour les disciples, tout semble être terminé, tout semble être fini, Jésus n'est pas là, ils ont vu Jésus mourir, être crucifié, et alors qu'ils vont être là et qu'ils vont être crucifiés, dans la dimension dans laquelle ils se retrouvent là, maintenant pour eux, c'est terminé, mais Jésus dit non. Maintenant, c'est moi qui va être avec vous. Maintenant, c'est moi qui va être avec vous. Vous ne serez pas orphelin, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous ai appelé à être avec moi, et vous avez été avec moi, vous avez choisi de me suivre. Je vais vous dire que vous ne serez pas abandonnés, vous ne serez pas des personnes qui vont être délaissées, mais je vais être tous les jours, chaque moment, depuis maintenant 3 ans, presque tous les jours, sinon tous les jours, Jésus était avec ses disciples et les disciples était avec Jésus. Et dans la dimension, dans le contexte qui est une réalité humaine, lorsqu'on meurt, lorsque mon père est décédé, je veux juste vous dire qu'il n'est pas avec moi quand même. Si je le prie, il ne m'entend pas, là. Il est avec Dieu maintenant. Il est avec le Seigneur maintenant. Dans le bonheur et la joie parfaite. Probablement, si des fois il entendrait ce que je prie, il serait probablement triste. Même là où il est. Parce que des fois, en tant que parent, dans ce qu'il vit, dans ce que nos enfants vivent, on est touché des situations qui sont là. Mais Jésus déclare que parce que lui, il est Dieu, et ça, c'est un miracle, c'est un prodige, que maintenant, alléluia, il est avec nous. Ça ne peut pas être le cas de nos parents, des gens qui sont décédés, qui nous entendent, qui sont avec nous autres. Il y a des doctrines dans notre société qui disent, nos parents sont avec nous, ils vont veiller sur nous. J'aimerais vous dire que c'est que des fables. La réalité biblique, c'est que Dieu peut être avec nous. Et vous savez ceci, mon père était un excellent père. Mais je préfère que Dieu soit avec moi. aujourd'hui que mon Père. Parce que je sais que là, lui où il est avec ce même Père. Alléluia. Il est avec son Père aujourd'hui. Et c'est la possibilité, alléluia, de ce que Dieu nous donne, la possibilité. Et messieurs, comme je vous ai dit jeudi, n'oubliez pas, vous êtes les fils, alléluia, d'un Père. Et vous pouvez vous identifier à ce Père-là, à être ce que Dieu vous appelle, et de pouvoir imiter et être semblable le plus possible à ce Père à lequel Dieu nous appelle. Et ça, c'est le chemin que Dieu désire. C'est un chemin qui nous façonne, un chemin qui nous change. Le chemin du disciple, c'est un chemin qui nous change, qui nous façonne. Ça dit, dans Matthieu 7, 22, ça parle, ça fait mention que plein de gens vont avoir prophétisé en son nom, accompli plein de choses. Le texte va même jusqu'à dire qu'ils ont chassé des démons, ils ont accompli des miracles dans le nom du Seigneur. Puis Jésus va leur dire ouvertement qu'il ne les connaît pas à ce moment-là. Ce qui est important, c'est pas d'abord et avant tout d'accomplir les choses, mais de devenir des disciples du Seigneur, de connaître, peu importe, je vous dis que peu importe l'âge que vous avez, il est possible d'être et de marcher sur ce chemin-là du disciple. Peu importe qu'on soit un jeune homme, une jeune fille, qu'on soit un aîné, qu'on soit quelqu'un qui est entre les deux, alléluia, Dieu est celui qui nous donne la possibilité d'être un disciple. Peu importe ce que nous savons, on pourra être de ceux qui apprennent à devenir des disciples. Vous savez, on a entendu dans notre société le proverbe qui dit « On n'apprend pas un vieux singe à faire des grimaces ». On y apprendra pas à faire des grimaces, mais on peut y en apprendre, on peut y apprendre à y en faire des nouvelles. Peut-être je peux pas y apprendre à en faire des grimaces, mais je peux y en montrer des neuves. Et il y a des choses que, dans les temps, que l'expérience, que la vie nous a appris, alléluia, mais à travers ça, on doit réaliser que peu importe l'âge que nous avons, peu importe le nombre d'années de vie chrétienne, Dieu voudra nous apprendre certaines choses, nous apprendre à changer certaines choses. J'aime cet homme Job, qui était un homme seul, qui était intègre et droit. On a l'impression que la vie de cet homme-là, dès le début du livre de Job, c'est un homme qui est intègre, qui est droit, qui connaît Dieu, un homme qui vit pour le Seigneur, qui est reconnu, qui est bien vu dans son environnement, qui est à son top de ce qu'il pouvait accomplir. Mais lorsqu'on regarde la vie de cet homme et qu'il va passer par la douleur et la souffrance, alors qu'il va être sur le chemin divin de disciple, Dieu, alléluia, est celui qui va l'amener à comprendre que ce n'était pas sa propre justice qui pouvait changer les choses. Et il va déclarer, alléluia, en ce qui concerne Dieu, alors pourtant qu'il connaissait qu'il était un homme, Dieu va dire des paroles qui, waouh, est-ce que tu as remarqué mon serviteur intègre et droit? Mais alléluia, à la fin du livre de Job, Job va déclarer, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Parce qu'il est possible et nous devons apprendre. Bien sûr, le chemin du disciple, c'est aussi un chemin où il y a, alléluia, bien sûr, de la douleur et de la souffrance. Les disciples, bien sûr, ils ont vu la gloire de Dieu. Bien sûr, alléluia, ils ont vu les miracles de Jésus-Christ. Ils ont vu des prodiges prendre place. Ils ont vu la multiplication des pains. Mais ils ont aussi entendu, alléluia, Jésus les défier pour leur propre vie. Ils ont aussi, alléluia, entendu Jésus d'être capable de les appeler à le suivre et que malgré les situations qui pourraient prendre place, qu'ils auraient besoin de marcher. Lorsque je regarde et je considère la vie des hommes comme David, alors qu'il va être loin par Samuel comme le roi, le futur, celui qui va prendre place. Il dirait même, à ce moment-là, lorsqu'il a été loin, il était dans la position de roi, mais pourtant, il ne siégeait pas sur le trône encore. Mais je vais vous dire ceci, à partir de ce moment-là, l'appel de Dieu sur la vie, savez-vous quoi? Ça lui a causé du trouble. Puis ça lui a pas causé du trouble pour y causer du trouble. Ça lui a causé du trouble parce que Dieu voulait le changer. Parce que Dieu voulait le changer. Quand je regarde la vie de Joseph, alors qu'il a la vision, les songes, parle à sa famille de des visions. Waouh, c'était glorieux, de tout ce qu'il prenait, puis de comment les autres l'honoraient, de toute cette dimension-là. Et pourtant, va se faire vendre. Et alors qu'il est en Égypte, va être accusé faussement, jeté en prison. T'es vendu comme un esclave, puis ça va plus loin que ce que tu deviens l'esclave qui est emprisonné pour ta foi, pour ta vérité, pour ta droiture, parce que tu as choisi de servir Dieu et d'être un disciple. Cela va être vrai pour Daniel. Bien sûr, quand je dis que cela lui a causé du trouble, c'est dans notre pensée humaine. Mais en fait, ce chemin-là était le chemin divin qui l'amènerait à voir la gloire et la main du Seigneur entreprendre. Non pas seulement dans le fait, alléluia, parce que non pas seulement dans le fait de ce que le peuple, les Égyptiens, l'amèneraient à être à la tête et que le peuple, sa propre famille, serait libérée. Mais le plus grand miracle de tout ça, c'était que la vie de cet homme a été changée. Ce qu'il faut avoir pour marcher, alléluia, sur le chemin divin, j'ai invité les musiciens à s'approcher, je vais aller rapidement ici. Ce qu'il faut avoir, premièrement, c'est être prêt à répondre oui à cet appel. De répondre oui à marcher sur le chemin divin, à répondre à cet appel de devenir des disciples du Seigneur, de dire, Seigneur, oui, je veux marcher, oui, Seigneur, je veux te suivre, je veux faire comme Jacques, comme Jean, je veux laisser là mes filets, je veux être capable même que les gens qui sont là, qui pourraient m'empêcher de te suivre, je veux te suivre, toi, et bien sûr, je peux aimer ces gens, je peux être capable de les bénir, mais d'être capable d'accomplir ce que Dieu, tu nous appelles à faire. Réponds oui, que ce soit de répondre ce que tu nous appelles. Être prêt au changement. Être prêt au changement. Dans la parole, il est dit, ne puis-je pas, Jérémie 18:6, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël. Voici comme l'argile est dans la main du potier. Ainsi, vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Lorsqu'il est dit dans le texte de Romains 9:21, ça dit, le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire? Et là, c'est le même mot, poema, qui veut dire qui, de façonner, de faire comme un poème, que dans le texte qu'on a lu, alléluia, dans Matthieu chapitre 4, verset 19, lorsque Jésus parle à ses disciples et va dire à ses disciples, suivez-moi et je vous ferai. C'est le même mot que l'on retrouve dans les deux textes. De Romains, de façonner, dit, est-ce que je peux pas agir? Est-ce que je peux être cet argile, ce potier qui façonne, qui va faire de cette argile? Puis Jésus va dire, est-ce que vous voulez me suivre pour que je puisse faire avec votre vie comme le potier avec l'argile? Jésus a fait avec ses disciples ce que Romains 9:21 dit que le Seigneur veut faire avec nous. Troisièmement, on doit vouloir être enseignant. Ça dit dans Matthieu 11, 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Le mot « instruction » ici, c'est « apprendre », c'est « recevoir », c'est « s'acquérir », c'est « s'instruire », c'est même « étudier ». C'est vraiment dans une dimension de permettre, de recevoir ce que le Seigneur veut faire. Dans un instant, on va jouer le troisième chant qu'on a chanté ce matin. OK? Lorsqu'on regarde la vie de David, et je vais terminer avec ça, j'ai d'autres choses, mais je vais terminer avec ça ce matin. Les autres choses, c'était être flexible. Dans Proverbes chapitre 29, 1, ça dit « Un homme qui mérite d'être repris et qui rédit le coup sera brisé subitement. » D'apprendre à être flexible, permettre à Dieu, alléluia, et de ne pas redire le coup. L'autre chose, c'est être vrai. On doit être vrai pour être un excellent, être un bon disciple. Jésus a appelé les disciples à être ce qu'ils étaient. C'est la raison pour laquelle Pierre a pu être ce qu'il était avec Jésus. C'est la raison pour laquelle Pierre a été capable de dire au Seigneur, de dire au Seigneur certaines choses, parce que Pierre avait la possibilité d'être vrai, de marcher dans l'humilité, d'être quelqu'un qui marche dans l'humilité. La psalmiste va dire, il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Avoir les méthodes que Christ a utilisées avec ses disciples. Recevoir de quelqu'un, être capable d'avoir quelqu'un, un mentor, recevoir de quelqu'un, qui est là, être enseigné par les situations que l'on vit quotidiennes. Jésus a étudié, a utilisé les situations quotidiennes, que ce soit dans les barques avec les tempêtes et les autres, pour simplement être enseigné et de changer, de les instruire, de mettre en pratique. Mais je veux terminer ce matin avec David. Pour être prêtre enseigné, on peut juste jouer doucement. On peut se poser la question, la Bible dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Je pense qu'il était un disciple selon le cœur de Dieu. Dieu dit qu'il a vu cet homme-là, que le Seigneur a vu cet homme-là. Mais est-ce qu'on peut penser un instant d'où vient ce cœur-là? Comme le cœur de Dieu. Comment David avait-il un cœur selon le cœur de Dieu? Est-ce qu'on peut penser que c'est parce qu'il est venu au monde de même? La réalité, c'est que David est venu au monde comme chacun de nous autres. Comme pécheur, comme avec les défis de sa propre vie. D'ailleurs, sa propre vie va le défier à quelqu'un à un moment donné. Mais je crois ceci, que lorsqu'on regarde la vie de David, laissez-moi vous dire la raison principale, il y en a d'autres, mais la raison principale pour laquelle David avait un cœur selon le cœur de Dieu. Et cela n'a pas commencé dans toutes sortes de dimensions, mais je pense que cela a pris naissance dans un désir dans son propre cœur d'être instruit de la part de Dieu. Ça dit dans la parole, dans Psaume 25, verset 4, remarquez ceci, ça dit, « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. » Dans deux versets, il y a quatre choses. « Fais-moi connaître, enseigne-moi, conduis-moi, instruis-moi. » Et le verset 1 nous dit, que nous donne de voir que c'est David qui élève son âme devant le Seigneur. Dans le chapitre 27, le verset 1 dit encore que c'est David, mais le verset 11 dit, « Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier. À cause de mes ennemis, dans la situation qui est là, Seigneur, je veux pas seulement que tu me délivres de mes ennemis, je veux que tu m'enseignes tes voies. Je veux, Seigneur, que tu puisses me conduire dans tes sentiers. » Dans Psaume 86, le verset 1 encore dit que c'est David qui prête, qui demande à Dieu de l'entendre, d'écouter sa prière. Et le verset 11 dit, « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » Psaume 143, le verset 1 encore dit que c'est une prière que David va faire. Et il va dire ceci, verset 10, « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit, me conduise sur la voie droite. » Je veux juste dire ceci en terminant. David était un homme selon le cœur de Dieu, parce que d'abord et avant tout dans son cœur, mais ce qui a commencé dans sa vie, c'est « Seigneur, je veux embarquer sur le chemin du disciple. » Je vais vous dire ceci. Quand je lis cela, il y a une réflexion qui m'est venue que je n'avais pas eue jusqu'à maintenant par rapport à la vie de David. Je pense que l'une des raisons que lorsque le prophète est allé le voir, il lui a parlé de son péché avec Bathsheba et le fait qu'il avait tué son mari. Je pense que d'abord et avant tout, la repentance de cet homme est venu parce que David a compris que Dieu était en train de l'instruire, de le corriger, était en train de répondre à l'une de ses prières. Alors que Saül n'était pas dans cette dimension-là à l'intérieur de sa vie. Saül était un roi. Pas nécessairement un mauvais roi selon la terre. Mais David était un homme selon le cœur de Dieu. Il était un homme qui marchait sur le chemin divin du disciple. Frères et sœurs, c'est le chemin à lequel Dieu nous appelle à marcher. C'est le chemin à lequel le Seigneur nous appelle à marcher pour nos propres vies, dans nos propres situations de vie. Je veux dire ceci. Dieu n'est pas d'abord intéressé par tout ce que tu peux faire. Parce que, vous savez ceci, avant que Pierre commence à faire des belles affaires, il a été un peu plus de trouble. Ce que je veux dire, c'est que Jésus a dû le reprendre. Jésus a dû l'enseigner. Mais cet homme-là, parce qu'il a marché sur le chemin divin d'un disciple, le moment où il a dit « Oui, Seigneur, je vais te suivre. Je vais laisser mes filets là, puis je vais te suivre. » Il a enclenché, alléluia, à devenir un disciple, à être un disciple. Et avant que Dieu soit intéressé par tout ce qu'on peut faire, Dieu est davantage intéressé sur ce chemin sur lequel il nous demande de nous engager. Et ce matin, je ne ferai pas de paix à la main levée ou quoi que ce soit, mais ce que je vais faire, on va juste fermer nos yeux un instant, là où on est. Et j'aimerais te lancer un défi aujourd'hui. On va terminer avec ça ce matin. J'aimerais lancer un défi dans ta vie. Est-ce que tu es prêt dans ton cœur à dire là où tu es ce matin, Jésus, je veux te dire oui pour marcher sur ce chemin divin. Je veux dire ceci, à ta réponse, si ta réponse est un oui de s'y engager, je veux dire que tu es en train de dire au Seigneur, que tu es prête, que tu es en train de dire au Seigneur oui Seigneur, je veux marcher avec toi. Oui, Seigneur, je veux être celui qui est prêt à être changé, à changer, ce que tu changes ma vie, mon cœur. Que Seigneur, je veux que tu m'enseignes, je veux que tu m'instruises. Je veux que tu me changes, je veux que tu me transformes. Je veux, Seigneur, être flexible. Je veux être réprimandable, je veux être enseignant, je veux être vrai. Seigneur, pas être quelqu'un devant les gens, d'être quelqu'un d'autre, Seigneur, quand je suis devant toi. Je veux être vrai, je veux marcher dans l'humilité. Et Seigneur, je veux que tu m'enseignes, Jésus, avec les mêmes méthodes que tu as enseignées tes disciples. Jésus, je veux te dire aujourd'hui que je veux être celui ou celle qui veut répondre oui. Et que je te permets, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, de m'enseigner comme tu le fais avec tes disciples, comme tu le fais avec Pierre. Et ce matin, juste dans ton cœur, là où tu es, tu peux juste dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux marcher, peu importe ton âge, peu importe, tu fais combien de temps que tu es au Seigneur. Peut-être que tu l'as déjà fait ça, mais ce matin, peut-être juste renouveler cette décision-là, cet engagement-là, où tu veux dire, Seigneur, je veux être avec toi. Et à partir d'aujourd'hui, je veux m'engager à marcher sur ce chemin comme un disciple. Sur ce chemin divin. Seigneur, on veut simplement que tu puisses nous aider. Jésus, tu as promis que alors que ses disciples, ces hommes ont choisi dans la parole, que ce soit même des hommes ou des femmes dans l'Ancien ou même le Nouveau Testament, Seigneur, qui ont choisi de devenir, de répondre à l'appel, que ce soit Joseph, que ce soit Moïse, que ce soit David. Seigneur, tu avais promis que tu serais avec eux, que tu marcherais avec eux. Et Seigneur, cette promesse est aussi vraie pour chacun d'entre nous, pour chaque jeune homme, chaque jeune fille, chaque personne d'un certain âge à l'intérieur de cette église, Seigneur. Chacun d'entre nous dans ce lieu, en tant que parent, en tant qu'homme, en tant que femme, Seigneur, on veut être de ceux qui marchent avec toi, Seigneur, qui se laissent conduire et diriger. Et aujourd'hui, Seigneur, on veut te suivre sur ce chemin divin. Sois avec nous. Donne-nous d'accomplir, de recevoir, et on veut te dire, Seigneur, fais ce qui te semblera bon. Mais nous voulons te suivre, Seigneur. Garde-nous en toi, Seigneur, et sois avec nous. Seigneur, ma prière a été souvent ceci, à travers toutes choses. Seigneur, ce que l'on a besoin, c'est de ta grâce et de ta force pour accomplir, d'accepter ce que tu veux faire dans nos vies et d'accomplir, Seigneur, ce vers quoi tu veux nous amener. Par ta grâce, ta force, et Seigneur, nous aurons la foi que tu es avec nous. Seigneur, garde-nous sur le chemin du retour aujourd'hui. Sois avec nous. Que ta bonne main, que ton Esprit Saint, rappelle à notre esprit, Seigneur, ce que l'on ne fait même que dans notre temps de culte personnel, de prière. Seigneur, ramène-nous là avec toi. Dans cette vie avec toi, dans cet engagement, dans cette décision. Je le prie au nom de Jésus. Seigneur, on se recommande à ta grâce pour ta seule gloire. Amen. Et amen.